Maribine.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Des ribines qui remontent le temps cette semaine, direction le Moyen-Âge et sa facette armée. C'est vrai qu'on imagine rarement cette période de l'histoire sans ses châteaux forts, ses chevaliers, ses batailles. Mais dans le fond, que savons-nous vraiment de la façon dont on se battait au Moyen-Âge? On pense en avoir une idée, mais quand on creuse un peu la question, on se rend compte que les idées reçues, les fausses impressions ont la vie dure. Alors on va rencontrer des spécialistes grâce à deux associations. On va commencer par Dagorlad, une compagnie basée à Pont-de-Buis qui pratique les arts martiaux historiques européens, autrement dit les différentes techniques de combat, avec ou sans armes d'ailleurs, de toutes les époques en Europe. C'est large. Mais Andreas Arnold, le secrétaire de la compagnie Dagorlad, s'est intéressé en particulier à la période médiévale. Et comme il est chercheur dans le domaine scientifique, il a appliqué la même rigueur de recherche pour se documenter sur l'histoire guerrière du Moyen-Âge. Et il va commencer par oxyre quelques clichés sur les combats de l'époque.
Bien sûr, les idées reçues, il y en a beaucoup, que les combats durent longtemps, on voit ça dans les films, que les épées sont lourdes, qu'il faut être grand, costaud. Et en fait, dans la réalité, on se rend compte que c'est à la fois beaucoup plus complexe et beaucoup plus simple. Déjà, pour commencer, il faut donner quelques chiffres. Une épée, par exemple, une épée longue, donc parmi le plus gros modèle d'épée qui soit, va rarement dépasser les 2 kg. Donc, tenue à deux mains, c'est tout à fait faisable par tout un chacun. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on étudie des traités anciens, on se rend compte que les techniques sont très efficaces et permettent de tuer une personne en 2 ou 3 coups maximum. Donc un combat n'a aucune raison de s'éterniser comme on peut le voir au cinéma.
Alors, le Moyen-Âge, c'est une vaste période déjà, ça va en gros de 500 à 1500. Et du coup, si je vous demande comment est-ce qu'on se battait au Moyen-Âge, qu'est-ce que vous me répondez ?
Mais je vais vous répondre que je n'en sais finalement pas grand-chose, puisque dans notre démarche, on s'appuie sur des sources, et des sources, il n'y en a pas tant que ça pour le début du Moyen-Âge. En fait, la première source que je connais est le manuscrit 1.33, qui doit dater du 12e siècle, ou 13e siècle. En fait, je ne suis même pas certain qu'on en connaisse la date exacte de rédaction. Et les manuscrits commencent vraiment à apparaître au 15e siècle, et donc à la fin du Moyen-Âge.
Alors qu'est-ce qu'on a comme source sur le Moyen-Âge du coup ?
Alors on a principalement des sources allemandes qui commencent par une tradition qui a été établie par un maître assez mystérieux, le maître allemand Johannes Lichtenauer, qui a rédigé un poème qui décrit un ensemble de techniques de combat à l'épée longue, sans protection, c'est-à-dire sans armure. Ces techniques étaient décrites en vers et très peu compréhensibles par le commun des mortels. Il fallait être un initié pour les comprendre. Et donc, ses pairs, d'autres maîtres d'armes, se sont attachés à gloser le texte, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, et expliquaient les techniques. Les manuscrits pouvaient donc se lire de la manière suivante. On commençait par décrire les vers du texte original, et ensuite le traité continuait par un texte du genre « Ici, le maître Lichtenauer voulait dire que la technique se faisait ainsi », et là, on avait une explication qui est un petit peu plus compréhensible, mais qui est en vieil allemand. Donc notre approche d'aujourd'hui consiste à déchiffrer le texte qui est déjà écrit dans l'écriture d'époque, à le traduire en allemand contemporain, puis à le traduire en français, et enfin de comprendre le geste, et ça ce n'est pas une mince affaire. Ça nous occupe beaucoup.
Et encore, il ne s'agit que d'escrime, c'est ça ?
Oui, tout à fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les maîtres d'escrime de l'époque n'étaient pas limités à la pratique de l'épée. Ils pratiquaient aussi les armes d'astes et pratiquaient aussi la lutte.
C'est quoi les armes d'astes, c'est quoi ?
Oh, ce sont les armes comme des lances ou les hallebardes, donc les armes avec un manche et une pointe au bout, pour résumer.
Ça apparaît quand, en gros ?
Oh, ça a toujours existé.
Et la lutte, c'est à main nue, c'est ça ?
Alors, il y a de la lutte à main nue, bien évidemment, et il y a de la lutte aussi en armure, et puis de la lutte, on va dire, asymétrique, c'est-à-dire contre une personne qui a une épée. Quand on termine un combat à l'épée, qu'on est vraiment très proche, il peut être possible, et c'est couramment décrit, de simplement faire tomber l'adversaire avec un crochetage en se servant de l'épée comme un bras de levier, et puis ensuite d'en arriver aux mains. C'est couramment pratiqué, surtout en armure.
Et quand on était paysan, qu'on n'avait donc pas de moyens et qu'on était amené à faire la guerre, enfin un peu obligé sûrement, qu'est-ce qu'on utilisait, comment est-ce qu'on faisait? Parce qu'on n'avait même pas de formation, je suppose.
Là, je suis un petit peu dans les limites de ce que je connais. Ce qui est certain, c'est que les épées que tout le monde connaît, donc tranchantes des deux côtés, étaient plutôt une arme réservée à la noblesse. Donc le soldat de base était effectivement aussi équipé d'armes tranchantes, mais qui étaient plutôt tranchantes d'un côté, je pense notamment aux fauchons ou aux messeurs allemands. Et l'utilisation de ces armes se faisait quand même selon des techniques qui étaient très similaires à l'épée longue. Et donc on retrouvait une terminologie qui était quasiment identique, les techniques étaient très proches. Et donc finalement c'était presque pareil. Mais ensuite les paysans étaient très inventifs aussi. On retrouve par exemple dans un traité du XVIe siècle de Paulus Hector Maier, une série de 16 planches qui décrivent la lutte et le combat à la faucille. Et donc c'était des faucilles qui étaient taillées pour que l'intérieur de la faucille présentait des dents et les techniques étaient diablement efficaces.
Voilà. C'était les moyens du bord, enfin on utilisait aussi bien des outils qui n'étaient pas destinés à faire la guerre au départ.
Mais ça a toujours existé et ce qui est très intéressant c'est de voir que quand on lit les traités on retrouve un certain nombre de constantes et que pour ceux d'entre nous qui ont pratiqué des arts martiaux asiatiques ont retrouvé des techniques totalement similaires parce que tout simplement l'être humain est fait de la même manière et qu'il y a une constante qu'on appelle la biomécanique. En fait tout le monde bouge de la même manière et faire tomber quelqu'un ça se fait toujours à peu près de la même manière, quelle que soit l'époque, quel que soit le continent.
Et alors, que nous apprend l'archéologie, justement, sur, peut-être pas forcément les techniques de combat, mais au moins les blessures, les armements, les armures, qu'est-ce qu'on peut savoir sur le Moyen-Âge ?
Là aussi, je suis un petit peu en limite de ce que je connais. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour des époques qui sont moins documentées, comme par exemple l'époque viking, on a très peu de traces écrites. On n'en a aucune directe. On a des traces indirectes dans les sagas qui vont par exemple décrire certains combats dont on peut vérifier expérimentalement la véracité et dont on peut aussi vérifier par l'étude des squelettes. On peut effectivement voir par de la paléotraumatologie, voir qu'il y a effectivement des coups qui sont plus souvent pratiqués que d'autres. Par exemple, plus souvent des coups pratiqués sur les jambes. Et ça, c'est assez plausible puisque le haut du corps est protégé par un bouclier.
Et sinon, en termes d'objets retrouvés, enfin là, de mobilier, comment dire, archéologique, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de un bouclier typique du Moyen Âge ou une arme typique du Moyen Âge, je sais pas là.
Là aussi, il y a, c'est une époque très longue, donc il y a beaucoup de matériel. Alors déjà, comme je l'ai expliqué au tout début, on a des modèles d'épées qui ont été retrouvés, dont on fait aujourd'hui des copies et dont on peut vérifier le poids en particulier. Donc j'insiste encore une fois sur le poids qui est nettement moins lourd que ce qu'on peut croire. Au niveau des armures, il y a aussi aujourd'hui des reproductions d'armures de très bonne qualité. Une thèse récemment qui a été soutenue sur l'utilisation des armures. Il y a une vidéo sur YouTube qui est très intéressante, qui démontre qu'on peut parfaitement courir, sauter, monter des escaliers, tomber, se relever, faire des roulades avec une armure qui pèse finalement 25 à 30 kilos. Donc finalement l'équipement d'un soldat moderne. Et c'est un poids qui est très bien réparti sur l'ensemble du corps, qui est bien articulé et donc qui donne une très bonne mobilité au soldat, qui est donc beaucoup plus agile que ce qu'on peut imaginer. Donc l'image du palan pour faire descendre un chevalier sur un cheval, bon, peut-être une armure de joute, et encore, j'en doute personnellement.
Il y avait le combat guerrier, bien sûr, mais il n'y avait pas uniquement ce type de combat. C'était quoi l'autre combat ?
Non, effectivement, il n'y a pas que du combat guerrier. Il y a donc au Moyen-Âge le combat qui est fait en tournoi, donc, qui est relativement bien connu, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Et donc il y a la parenthèse intéressante qui est le duel judiciaire, qui est quelque chose qui est pratiqué dans la tradition germanique, dans le Saint-Empire romain germanique, un peu en France. Ça a été pratiqué aussi en Angleterre à l'époque anglo-normande. Alors, le duel judiciaire était le fonds de commerce des premiers maîtres d'escrime qui ont écrit leurs livres, leurs traités, qui pouvaient parfois, comme dans le cas du maître allemand Hans Thalhofer, être vus un petit peu comme leur book. C'était des traités qui expliquaient ce qu'ils savaient faire et qu'ils vendaient au plus offrant.
Parce que le but du duel judiciaire, c'est quoi en fait ?
Ben, le duel judiciaire est un moyen de décider par un combat dont l'issue en fait est décidée par Dieu. Ça permet de trancher un doute dans le cas d'un litige où on n'a pas de preuves. C'était utilisé dans un certain nombre de cas bien précis, dont je ne me remémore pas tous les cas, mais il y avait en tout cas le meurtre, le viol, le parjure. Donc là, le format était très clair. Donc si les deux parties désiraient s'affronter en duel judiciaire, et je tiens quand même à préciser qu'ils avaient de multiples possibilités pour résoudre leur conflit avant d'en arriver là, donc s'ils décidaient d'en arriver là, donc on décidait d'une date et d'un lieu, et donc ils s'affrontaient dans une lice qui avait une taille relativement réduite, une dizaine de mètres de large je dirais, et donc ça pouvait se faire sous plusieurs formats en fonction des gens qui s'affrontaient. Alors pour les nobles, ça se faisait à l'épée longue, soit sans armure, soit avec armure. Pour des gens non nobles, en tout cas dans le traité de Thalhofer, on voit des illustrations de gens qui se battent au bouclier. Mais un bouclier qui est muni de pointes, donc l'arme était à la fois offensive et défensive. Il y avait aussi un format très particulier de combat entre un homme et une femme, où l'homme était dans un trou d'environ 80 cm de diamètre et enterré jusqu'à la taille, et muni d'un gourdin. Et la femme tournait autour de lui, elle était libre, et avait une arme qui était une pierre dans un linge qu'elle pouvait faire tournoyer pour frapper l'homme. Il semblerait, d'après les reconstitutions qui ont été faites, que ce type de combat était très équilibré au niveau des chances. Et il y a au moins une instance, à ma connaissance, de combat qui a été effectuée sous ce format, en Lucerne, en Suisse, dans le XIIIe siècle, où la femme a gagné, soit dit en passant.
C'est toujours cette époque, XIIe, XIIIe siècle, ce type de combat judiciaire ?
Oui, ça a continué à peu près jusqu'au XVe, XVIe siècle. Et puis après, c'est tombé en désuétude, mais ça a continué sous la forme de duels d'honneur, mais qui étaient faits hors cadre légal.
Et c'était des combats à mort, ces duels judiciaires ?
Alors, pas forcément. En Allemagne, oui. En Angleterre, sous l'époque anglo-normande, non, pas forcément, puisque déjà les parties qui devaient s'affronter pouvaient nommer des champions qui étaient rémunérés pour le combat. Et les champions pouvaient déclarer forfait, et si c'était le cas, donc ils étaient épargnés. Mais par contre, ils étaient déshonorés et perdaient le droit de pratiquer d'autres duels judiciaires. Donc pour les champions spécialisés dans ce genre d'affaires, c'était la fin de leur métier. Voilà. Et alors c'était très intéressant, puisque le duel judiciaire pouvait alors être utilisé comme un moyen de régler en fait des conflits, notamment sur des terres. Et c'était vu comme un moyen de finalement d'acquérir des terres un peu sous la forme. Il y a une analogie qui a été faite. Bon, je m'écarte peut-être un petit peu. On pouvait voir ça comme une vente aux enchères. On convoite une terre. On ne peut pas acheter la terre parce que les terres étaient très rarement en vente. On pouvait la louer, mais ce n'était pas forcément rentable pour celui qui la louait, parce que on perdait beaucoup de droits sur la terre. Donc finalement, déclencher un litige, c'était un bon moyen de se l'approprier. Donc le plus offrant se payait le meilleur champion. C'était au plus offrant. Donc il y avait donc des gens qui faisaient profession de duellistes professionnels pour ce genre d'affaires.
Voilà pour une vue d'ensemble de la façon dont on se battait au Moyen-Âge. On va maintenant se concentrer plus particulièrement sur une arme et sur un type de combat. On va se concentrer sur l'arc avec Lionel Gondeau, qui est capitaine de la compagnie des archers de Bro-Warroc, une compagnie basée dans le Morbihan et dans le Finistère.
Nous, on est fixé sur le XIIIe siècle, hein, en moyenne, par rapport aux costumes, etc. Au moment de la guerre de Cent Ans, quoi, hein, entre 1100 et 1400, toutes ces batailles qui avaient lieu avec des arcs. Quoi.
Quel était leur rôle exactement aux archers ?
Les archers, c'était l'artillerie de l'époque, vu qu'il n'y avait pas d'artillerie, et c'était l'artillerie. Donc les archers, ils tiraient en groupe, très serrés, ils étaient très nombreux, c'est à Sting. Hein, et donc ils envoyaient des milliers de flèches en l'air, donc c'est des flèches très très lourdes, en général, qui tiraient avec des pointes très très lourdes, enfin, et des pointes très effilées. Les flèches montaient et redescendaient, et après ça traversait tout ce que ça rencontrait. Ça redescendait à la verticale, et voilà quoi.
Ils frappaient tout le temps ou c'était plutôt au début du combat?
C'était plutôt au début du combat et puis c'était par volée, quoi. Comme ça s'est fait après, sous Napoléon, avec l'artillerie. Hein. On envoie une salve d'artillerie, après on charge, quoi. Et à l'époque, c'était l'artillerie de l'époque, quoi.
Le canon, en fait.
C'était le canon de l'époque, quoi. Bon, après, on a trouvé que le canon, c'était plus efficace. Ça mobilisait moins de monde, parce que, bon, quand même, quand il fallait aligner 1000 ou 1500 archers pour tirer des flèches tous en même temps, que les flèches retombent en même temps, imaginez une pluie de 1500 flèches qui retombent, quoi.
À Hastings, c'est ça, ils étaient 1500? La bataille d'Hastings ?
J'en sais rien, j'y étais pas.
Est-ce qu'il y a des...
J'y étais, mais je m'en souviens plus.
Est-ce qu'il y a des batailles où vraiment on sait que les archers ont été décisifs ?
Hastings.
La bataille d'Hastings, c'est le 14 octobre 1066 dans le sud de l'Angleterre et elle a permis à Guillaume le Conquérant de s'emparer du trône d'Angleterre contre le dernier roi anglo-saxon.
Il y avait des chevaux en armure, avec des cavaliers en armure, et puis c'est comme ça que la bataille a été perdue, grâce aux archers. Quoi.
Et pour prendre un château, est-ce que c'est utile un archer, des archers ?
À l'époque, ouais, au XIIIe, non. Hein, il y avait quand même autre chose, il y avait des tours mobiles, il y avait toute une architecture qui permettait les mangeonneaux, tout ça. Il y avait plein d'engins qui permettaient d'attaquer un château. Les archers, ils étaient plutôt dans la défense, quoi. Ils étaient plutôt dans le château pour défendre sur des tirs individuels, quoi.
Est-ce que vous pouvez me décrire votre arc? Enfin, je ne sais pas si c'est l'arc le plus courant, ou enfin, je ne sais pas lequel vous pouvez me décrire,
oui,
l'arc typique.
Un arc, un vrai longbow en if, quoi.
Alors, il mesure combien?
Il doit faire pas loin de 2 mètres, il doit faire 1,95 m ou 97 m. En bois d'if, c'est fabriqué par un artisan italien, parce qu'en Italie, il y a des ifs, beaucoup. D'ailleurs, les Anglais le savaient au Moyen-Âge, parce qu'ils achetaient leurs ifs en Italie, et ils n'en avaient pas chez eux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et aujourd'hui, on est capable encore de fabriquer des arcs. Ça, c'est un arc qui est fait comme il se faisait au XIIe siècle. Pareil, de la même façon, avec les poupées en corne et tout, quoi.
Poupées en corne, c'est quoi les poupées en corne?
Alors les poupées, c'est ces petites pièces de corne travaillées qui permettent que la corde ne coupe pas le bois.
Ouais, pour tenir deux extrémités, quoi.
La corne est beaucoup plus solide et résistante que le bois d'if, quoi.
Et c'est de la corne de quoi en général?
Bon, c'est de la corne de vache, hein, la corne de bovin, quoi.
Et la corde, elle est en quoi?
Normalement, c'était en chanvre, mais maintenant on utilise des matériaux un peu plus modernes. C'est du dacron.
Donc les flèches, voilà une flèche typique, hein, avec les encoches taillées dedans, renforcées avec de la corne, avec des plumes d'oie.
De l'if aussi, comme bois?
Non, hein, c'est plutôt du tilleul et des bois comme ça, des bois de chez nous, quoi, hein, mais des bois tendres, hein, et un peu plus lourds aussi, quoi.
Et la pointe?
La pointe en acier, donc là c'est des pointes pour l'entraînement. Là, nous avons des pointes de guerre, celles qui étaient utilisées à Hastings et dans l'ordre de toutes les grandes batailles, quoi. Ça, c'est la pointe typique Hastings. Ça, c'est les pointes que les archers tiraient en hauteur et redescendaient de 80 mètres, 100 mètres.
Alors, elle fait quoi? 10 cm à section carrée, quoi.
Voilà, 10 cm section carrée. Hein, et puis donc, avec des flèches qui pesaient 90 grains, 100 grains, quoi. Hein.
100 grains, c'est environ 6 grammes.
Voilà, actuellement on s'entraîne avec des flèches qui font 35 grains.
Après il y a la flèche lame à demi-lune, c'est pour couper,
oui,
des trucs, c'est ça?
C'est peut-être un petit peu fantasmé, ça. On pense que c'est pour couper des cordes et tout. Je ne suis pas très convaincu que ça pouvait exister. Ça par contre, ça c'est une flèche pour mettre le feu. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a dedans alors?
Dedans, là, bon, c'est un petit peu modernisé. Dedans, il y a de la laine d'acier très très fine. Ensuite, entourée de chanvre. Et l'ensemble est trempé dans de la cire d'abeille. Voilà. Avant, c'était fait avec de l'étoupe, qui était du chanvre à la base, et de la poix. Mais la poix, c'est un mélange de cire, de sucre, etc. Alors, on faisait souvent des flèches comme ça, des flèches très méchantes. Alors, il faut savoir que les pointes n'étaient pas fixées sur les flèches, sur les hampes. Ils étaient emmanchés à force. Et donc, ce qui fait que quand on retirait la flèche, la pointe restait dans la plaie. Mais c'était l'objectif, hein, c'était de mettre les gens hors service. Hein.
Et là, un arc comme ça, ça tire à combien, à quelle distance à peu près, donc l'arc, le longbow?
Cet arc-là, celui que Kidour tire, On a tiré cet après-midi, on était dans les arbres en face, on était à 300 mètres. Quoi. Pas en tir tendu, hein. En tir balistique, on était à 300 mètres. Quoi.
C'est-à-dire, tir balistique, ça veut dire qu'on tire vers le haut ?
Ouais, 45%, quoi. Ça dépend de la puissance de l'arc. Après, la puissance de l'arc dépend de la force de l'archer qui est capable de l'armer, quoi, hein. Tout simplement. Quoi.
Si vous aussi, vous voulez pratiquer les arts martiaux historiques ou l'archerie du XIIIe siècle, si vous voulez notamment participer à des reconstitutions historiques, vous retrouvez les coordonnées de l'association d'Agorlad et des archers de Brovaroc sur le site internet de la radio.